contradictions internes dans la société.
On n'est pas des cadeaux.
La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas.
Sur Radio Canu, la plus...
Encule.
Oh. Enculé.
Oh. Enculé ou enculé.
Enculé.
La plus...
Les radios. Entre le stade, le PMU et le Bricorama, ils sont quand même très ghettos, les hétéros.
On n'est pas des cadeaux.
On n'est pas des cadeaux.
Émission transpédéguine et féministe.
Est-ce qu'on appartient à l'humanité? Est-ce qu'on relève de l'humanité si on n'est ni un homme ni une femme?
C'est pas en demandant poliment, vous ne feriez pas nous enlever de nosographie psychiatrique qu'on va l'obtenir. C'est en tapant des poings sur la table, c'est en occupant les lieux. Personne ne nous écoutera si on ne montre pas à la société la violence qu'elle nous fait subir.
L'hétérosexualité, c'est aussi naturel que l'enclos électrique dans lequel on parque les vaches.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à On n'est pas des cadeaux, l'émission Transpédéguine sur Radio Canu. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à tout le monde. On va commencer par juste une info qu'on a trouvé intéressante à diffuser ce soir. On voulait parler de la libération de Cara Wilde. Cette semaine, mardi 14 novembre, c'était la libération de Cara Wilde, artiste trans détenue à Fleury-Mérogis pendant 17 mois, en fait depuis mai 2016, suite à l'affaire dite du Quai de Valmy. Pour rappel, lors d'une manifestation contre les violences policières, une voiture de police a été incendiée. Le jugement a eu lieu il y a quelques mois et a donné suite à des peines très lourdes, visant explicitement à criminaliser les mobilisations sociales à ce moment-là. Placée dans une prison d'hommes depuis son arrestation, Cara Wilde a passé tout son temps de détention à l'isolement dans des conditions dégueulasses. Elle sort aujourd'hui, au terme de 2 années de prison ferme qu'a requis le procureur. L'autre personne restée en détention après l'instruction reste en taule. On manifeste à nouveau toute notre solidarité aux inculpés que brûlent toutes les prisons.
Et je vais maintenant vous parler des États-Unis, plutôt de vous parler de son président, et donc par glissement vous parler du monde des abrutis. Il a décidé, encore une fois, sûrement par provocation, de potentiellement placer une antiféministe ambassadrice des droits des femmes aux États-Unis et donc par extension dans le monde. Je dis par provocation car, pour rappel, beaucoup de féministes s'étaient mobilisées suite à son élection pour la Marche mondiale des femmes. Donc, on va voir qui est cette femme qui va potentiellement promouvoir les droits des femmes dans ce monde. Donc, c'est Penny Nance. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Non. Non.
Alors, c'est une militante conservatrice anti-avortement et anti-LGBTQI. En 2013, elle déclarait que l'avortement légal avait des conséquences plus graves que la Shoah. Elle a même parlé de génocide.
Donc Ah oui, effectivement, j'en avais entendu parler. J'avais pas retenu son nom, mais...
En 2015, elle critiquait le dessin animé La Reine des Glaces. On peut se dire... Des neiges, pardon. On peut se dire pourquoi pas. Mais voilà pourquoi, qui montrait des personnages féminins forts, mais dépeint les hommes en criminels et en idiots. Je cite, nous voulons élever des héros, nous voulons élever de vrais hommes qui feront de bons pères et qui subviennent aux besoins de leur famille et font de bons maris. Et l'émancipation des femmes ne doit pas se faire en rabaissant les hommes. Voilà sa vision du monde. Nous voulons encourager la masculinité, pas la diaboliser, conclut-elle. Donc à plusieurs reprises, elle a affirmé que la culture américaine contenait trop de messages anti-hommes. Et en 2015, elle avait aussi pris la défense d'une grève fière du Kentucky qui refusait de marier des couples homosexuels, malgré la décision de la Cour suprême. Donc voilà Penny Nance, donc dans une société qui se libéralise aussi par la pensée, dans une mélasse où tous les points de vue se vaudraient, on peut dire que le seul avantage de la clique de Trump, c'est qu'ils obligent à prendre parti. Dur de rester indifférent face à ce genre de déclaration. Et après, même si le choix de Penny Nance, donc qu'elle soit ambassadrice, est ouverte, où elle est ouvertement conservatrice et moraliste, on peut se questionner en soi de la nécessité d'une ambassadrice du droit des femmes dans le monde. Je veux dire, en soi, le fait d'avoir créé en 2009 ce statut d'ambassadrice du droit des femmes, l'Occident n'a de leçons à donner à personne en termes de droits humains, et donc remettons en question ce genre de statut. Et en parlant donc toujours des États-Unis, parlons de guerre, car si Penny Nance parle de génocide pour parler ouvertement, pour parler d'avortement de fœtus, comment parler des provocations de Trump pour attiser les tensions au Moyen-Orient? Lui, il rêve de gros sous et de guerre. Pourquoi je dis ça? Parce que Trump vient de signer un contrat d'armement de 460 milliards de dollars. Je ne sais pas ce que ça représente, en vrai, j'ai aucune idée. Donc ça, c'est avec l'Arabie Saoudite, permettant que des armes américaines soient utilisées pour des crimes de guerre contre des civils. Il peut ensuite se targuer cette semaine sur Twitter et dire « J'ai une entière confiance dans le roi Salman et le prince héritier d'Arabie Saoudite. Ils savent exactement ce qu'ils font. » Donc ce qu'ils font, encore une fois, provoquer le Liban à une nouvelle guerre. Et donc toujours se pose la question, que valent des vies humaines face à des contrats juteux? Et moi je vois pas d'autre chose à dire que ce monde-là qui prône, c'est pas le nôtre, et les vies humaines n'ont pas de prix, elles ne se monnaient pas au poker de la démocratie. Et alors ça m'énerve vraiment quand on compare génocide et avortement, avortement et guerre. C'est pour ça que je faisais ce petite parenthèse sur les milliards de dollars de Trump et les guerres. Mais revenons au fémonationalisme. Donc c'est quoi ce grand mot? On le réexplique chaque fois parce qu'il est compliqué. L'utilisation des causes féministes à des fins impérialistes. Donc après avoir vu le fémonationalisme des États-Unis, revenons en France. Marlène Schiappa avait annoncé en mai l'instauration de policiers habilités à verbaliser les insultes sexistes dans l'espace public, s'inscrivant dans le projet plus large du nouveau président d'introduire 10 000 policiers de proximité. Alors pour conclure cet édito, je vais lire des extraits du blog de Joao Gabriel, d'un article intitulé « Le fémonationalisme sous l'ère Macron, d'effrayantes perspectives sécuritaires et racistes au nom de la cause des femmes ». Donc je vous conseille bien évidemment de lire cet article dans son intégralité sur son site, mais voilà quelques extraits. Avant même de songer à la verbalisation des insultes sexistes, ces déclarations ont de quoi faire frémir tous ceux qui sont conscients que le renforcement des dispositifs policiers est annonciateur de plus de violences policières et donc aussi de crimes policiers, en particulier contre les hommes arabes et noirs vivant dans les quartiers populaires. Car en effet, ce n'est certainement pas dans le 16e arrondissement parisien que les effectifs policiers seront gonflés. De plus, les contrôles au faciès étant largement prouvés, ce ne sont certainement pas tous les hommes qui seront concernés par cette accentuation de l'activité policière. La nouvelle secrétaire d'État affirme que son projet s'explique notamment par le fait que la majorité des femmes ne veut pas porter plainte après des agressions sexuelles ou insultes sexistes. Ce qui est une réalité. Et entre parenthèses, il y a une énorme dénonciation actuellement par les médias sociaux, et ça, c'est vraiment trop la classe. Voilà pourquoi il est tragique que ce qui est un fait indéniable à politiser avec les bonnes grilles de lecture soit utilisé pour légitimer une entreprise sécuritaire dont l'application sera à coup sûr raciste. La question de l'espace public. Les hommes dominants n'occupent pas l'espace public de la même façon que les hommes dominés. Ils ne fréquentent d'ailleurs globalement pas les mêmes lieux, et ceux qu'ils fréquentent ne sont pas sous contrôle policier permanent comme le sont les quartiers populaires. Alors, je passe, hein, je lis plein d'extraits. C'est d'ailleurs un de ces nombreux paradoxes montrant comment fémonationalisme et hétérosexisme fonctionnent main dans la main. Des policiers seront habilités à verbaliser des insultes sexistes alors même que le fonctionnement de leur institution décourage le dépôt de plainte pour agression sexuelle et que les insultes sexistes, homophobes et les violences à caractère sexuel sont une des modalités récurrentes de l'expression de la brutalité policière. Mais cela rappelle aussi l'urgence, donc un autre extrême, et cela rappelle aussi l'urgence de tracer une autre frontière, cette fois entre les analyses émancipatrices et celles réactionnaires du fémonationalisme, à une époque de confusion sur lesquelles prospère un large éventail de populistes, et où parfois la différence entre des critiques émancipatrices et réactionnaires n'est pas toujours claire, même dans les camps se revendiquant de l'émancipation. Donc, j'aime bien comment il se finit cet article. Soyons vigilantes et vigilants. Et aussi, on n'est pas des cadeaux. Et là, on va parler de fanzine.
Alors oui, cette semaine, on va parler de fanzine, on va parler de brochure, on va parler de micro-édition, même si le terme fait un peu grimacer. Alors, les fanzines, c'est quoi ? Eh bien, c'est toutes ces brochures qui te passent dans les mains quand tu passes un peu de temps dans les milieux TPG et féministes. Des brochures qui sont pleines de textes, d'images, sur à peu près tout ce que tu peux avoir envie de lire. Donc des brochures politiques, des témoignages, des récits de parcours, des infos, mais aussi de la poésie, des textes de fiction, de l'image, des textes de cul, etc. En gros, c'est de la ressource politique sur une base communautaire, parce que le principe c'est aussi de faire circuler ces imprimés, et un mode d'expression do it yourself dont on peut tous et toutes s'emparer. Depuis un moment dans l'émission, on avait envie d'inviter celles et ceux qui en font de ces fanzines pour discuter de ce que ces textes et aussi de leur support bien particulier nous apportent et comment ils peuvent nous marquer, nous déplacer ou juste nous plaire. Alors aujourd'hui, on est avec Marguerin en studio. Bonsoir Marguerin. Merci d'être là. Donc il sévit avec Elodie dans les éditions Douteuses, donc qui publie de la poésie trash et de la critique sociale et sexuelle. Donc pour vous citer, ça va de l'ésotérisme gay et du cinéma d'horreur enfoutré à du féminisme débauché et des pamphlets érotiques. On a aussi discuté pour cette émission avec Rizzo Boring, dont vous avez peut-être lu les zines Boring et Butch, et on va commencer par écouter l'entretien qu'on a réalisé avec elle.
Je m'appelle Rizzo Boring et je fais des fanzines plus de 10 ans. Une sorte de fanzine qui se dit plutôt personal zine et du coup qui parle plutôt de... où je raconte plutôt ma vie, quoi. Les fanzines, c'est comme des petits livrets autoproduits, souvent photocopiés, qui sont donc pas édités, pas imprimés dans une imprimerie. Qui peuvent parler plein de sujets. Au départ, ça s'appelle fanzine parce que c'était comme des magazines de fans. Et du coup, c'était des gens, par exemple, qui étaient fans de Star Trek. Et ils faisaient un petit livret avec des choses sur Star Trek, par exemple. Et ça a vachement évolué dans le temps. Et il y a eu beaucoup de fanzines de musique, de punk, etc. Avec des chroniques ou des choses comme ça, plutôt comme un magazine, mais autoproduit. Et puis, il y a eu pas mal de fanzines féministes depuis assez longtemps. Il y a eu beaucoup de fanzines féministes, par exemple, sur les violences sexuelles, sur la santé mentale, sur la gynéco, l'auto-examen, par exemple, ou plein de sujets en fait, qu'on ne trouvait pas ailleurs. Et du coup, en fait, c'est un peu le truc des fanzines, c'est si tu ne trouves pas ailleurs, t'as qu'à le faire toi-même. Souvent, on considère plus comme fanzine quand il y a plusieurs choses à l'intérieur que... S'il n'y a que du texte, on va appeler ça une brochure. Souvent, c'est quand même des extraits de livres ou des choses comme ça. Et quand il va y avoir des collages, une mise en page, en fait, aussi graphique, un peu... même si c'est de la photocopie découpée, recollée, même si c'est que du texte, mais qu'il y a une espèce de mise en page, un peu une recherche sur la mise en page. Souvent, on appelle ça fanzine, quoi. Après, il y a des gens qui font un fanzine et puis il y a des gens qui sortent des fanzines depuis des années, qui le sortent tous les mois, enfin un peu à la mode magazine quand même. Et ben en fait, j'ai commencé à connaître les fanzines dans le milieu punk anarchiste où il y avait pas mal de fanzines de musique qui m'intéressaient pas trop. Après, j'ai découvert parce que c'était pas les chroniques, tout ça, ça m'intéressait pas trop. Et après, j'ai trouvé des fanzines graphiques, des gravzines, on appelle ça. Où là, c'était un peu la catastrophe niveau féminisme, quoi, c'était plutôt enfin un peu la BD underground ou des trucs comme ça là où c'est super masculin, où il y a plein de viols mais du point de vue de l'agresseur, où il y a plein de trucs enfin moi je trouvais super dégueu, du coup je me retrouvais pas du tout là-dedans. Et après j'ai découvert d'autres fanzines comme Bang Bang, le fanzine 100% pur PD qui est un fanzine collectif, et Il pleut des gouines aussi qui était un fanzine toulousain. Il y avait aussi le fanzine Star à Lyon, plutôt avant encore ça. Et du coup, là, je me suis dit, ah bah ouais, non, ça me parle plus, quoi. Et il y avait une personne que je connaissais qui faisait un fanzine sur les violences sexuelles que j'avais adoré. Et du coup, je me suis dit, bon, bah moi aussi, je peux faire un truc. Et du coup, j'ai commencé en 2004. J'ai fait un fanzine, au départ c'était juste mes dessins, et puis je me disais, je voulais diffuser à mes amis. Donc j'ai commencé à faire ce fanzine là, et puis en fait j'en ai fait un deuxième, un troisième, et puis voilà, maintenant ça fait un moment. Ça a évolué, j'ai plus les mêmes noms qu'avant, je les assume pas tous pareil, j'ai changé de nom aussi pour ça. Et maintenant mon fanzine s'appelle Boring, enfin mon principal fanzine s'appelle Boring, et puis j'ai fait d'autres fanzines à côté avec des autres personnes. Bah, c'est aussi ce truc que moi je trouve intéressant, c'est que pour moi c'est que le point de vue soit situé, et je me sens pas de faire une thèse sur des sujets qui me touchent, et par contre je sens de raconter des anecdotes qui m'arrivent, et d'une manière un peu drôle j'essaye, et voilà, pour parler de sujets qui sont en fait des sujets politiques, quoi. C'est le personnel est politique, pour moi c'est important, et du coup de parler de mes expériences personnelles sous un éclairage politique. Du coup je parle pas mal par exemple de santé mentale là dans le dernier. Dans le prochain aussi d'ailleurs. Bah, les Butch aussi, là on a fait un fanzine collectif sur les Butch avec Sam et CC. Bah, le point de départ, c'est qu'il n'y a rien en français qui nous intéresse, même. Enfin, il y avait des choses sur internet, mais moi je ne lis pas trop l'anglais. Et du coup, il n'y a rien qui nous ressemble, puis on entendait de plus en plus de conneries sur les Butch, des gros clichés débiles. Du coup, on s'est dit, bah, en fait, si on veut exister de la manière dont on existe, en fait, au final, si on veut, il faut qu'on fasse nous-mêmes une représentation de nous-mêmes, quoi. Sam aussi faisait des fanzines, du coup on s'est dit bah allez, on se met là-dessus, alors qu'on n'habite pas dans la même ville, donc c'était un peu compliqué, mais voilà, on s'est fait confiance, et puis on est super content du résultat, quoi. Souvent on parle de ce qui nous est arrivé, enfin quand même c'est un peu le truc. Moi je, enfin quand il m'arrive des trucs de merde par exemple, maintenant j'ai pris l'habitude de au lieu de ressasser comme ça gratuitement, je ressasse en me disant genre comment je pourrais faire un fanzine avec ça, comment je pourrais faire une page drôle avec je sais pas, avec la dernière connerie que m'a sorti mon psychiatre, ou je sais pas, une rupture difficile ou des choses comme ça, comment essayer de trouver des manières que ça résonne avec d'autres, des expériences d'autres personnes. Mon dernier fanzine là, il y avait beaucoup de choses sur la dépression par exemple, il y a plein de personnes qui sont venues me voir en me disant ah bah c'est super, on n'en parle jamais, moi aussi ça m'arrive, enfin je sais pas, essayer de sortir des sujets qui sont peu parlés et d'en faire un truc un peu, enfin que moi je trouve drôle, mais après tout le monde trouve pas ça très rigolo, mais
ludique.
Ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas, un peu cynique, je sais pas. Ouais, j'essaye d'être drôle.
Donc Boring est un peu cynique.
Bah déjà le nom, voilà, Boring, quoi. On vous avait prévenu, c'était ennuyeux. On peut pas s'en plaindre. Non, je sais pas. Ouais, c'est un peu, bon, je sais pas si c'est si cynique que ça, mais ça se veut un humour un peu noir, quoi. Féministe à l'époque, en 2004, c'était pas le mouvement féministe qu'il y a maintenant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de textes sur internet, beaucoup de... À l'époque, j'avais l'impression que quand un texte sortait, on l'avait tous lu, quoi. Là, c'est plus le cas, mais on garde le papier. Enfin, moi, je fais aussi un blog qui s'appelle Eosine, qui met des fanzines en ligne. Et en fait, je me rends compte que je les diffuse quand même plus en papier que ce qui sont téléchargés sur le site. Du coup, c'est comme, il y a quand même le papier qui reste... Pour moi, c'est important. En fait, au début, je me suis dit, ah, il faut que je diffuse mes fanzines sur Internet, parce qu'on me les demandait, par exemple, au Québec. Et du coup, je me suis dit, ah, bah, si je fais les miens, autant mettre ceux des potes aussi. Et puis, de fil en aiguille, ça fait un blog qui est pas ultra fourni, mais qui est quand même, il y a quasiment rien d'autre. Du coup, il est quand même un peu connu pour ça, quoi. C'est un blog de fanzines et d'affiches fait par des meufs, des trans, des gouines et des PD. Et donc déjà, ça fait une sélection. et après, oui, je mets que ce que j'aime bien. En fait, je me force pas. Enfin, c'est pas du tout exhaustif. Il y a plein d'autres sites. Enfin, il y a pas plein d'autres sites, mais il y a Queerzap, par exemple. Qzap, donc qzap.com je crois, Queerzine Archive Project, donc c'est un truc américain qui archive tous les zines queer. Donc ça, c'est un gros projet. Je me disais, il n'y a rien comme ça en France, mais en même temps, moi j'ai pas du tout l'ambition de faire un truc comme ça qui diffuse tous les fanzines. Déjà, j'ai pas un nom de domaine acheté, j'ai pas beaucoup de mémoire sur mon fanzine, sur mon blog. Et donc ouais, je fais une grosse sélection. Et puis en même temps, il y a pas des milliers d'ines qui sortent tous les ans quand même. C'est pas, ça va, quoi. Et autant les fanzines, moi j'aime bien parce que c'est pas juste des brochures et qu'on met un peu d'esthétique dedans, mais il faut qu'il y ait un sens, quoi. Enfin, si c'est juste de l'esthétique, moi je suis plus, quoi. Et les salons de micro-édition, on est quand même pas mal là-dedans maintenant, qui font un tabac. Il y en a dans toutes, même les petites villes, il y en a des salons de micro-édition. Moi j'avoue que souvent quand j'y vais, après j'ai plus envie de faire de fanzines. Je me dis, oh là là, les fanzines c'est un truc de bourge artiste dégueulasse. Enfin, c'est un peu compliqué parce que du coup la micro-édition, c'est... Comment dire ça? Il y a beaucoup de gens qui font des fanzines à 15 balles, à 10 balles. Enfin, c'est super cher, en fait. C'est des trucs sérigraphiés, 4 couleurs. Enfin, c'est un peu des œuvres d'art. Et j'ai l'impression que c'est aussi un délire. On fait des fanzines parce qu'on n'a pas été édité encore, parce qu'on n'a pas... pour se faire connaître, quoi.
C'est un peu le court-métrage du film, quoi, le fanzine par rapport à la BD.
Ouais.
Ce que tu t'écris,
ouais,
en tout cas.
Ouais. Moi, j'ai cette impression-là. Du coup, ça fait que ça devient un objet artistique, etc. Enfin, pour moi, le fanzine, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un truc qui est accessible, qui est photocopiable, qui est diffusable. T'en as un, t'en refais 10, tu demandes pas la permission aux personnes. Enfin, je veux dire, c'est... pour moi, c'est vachement lié à la culture du do-it-yourself punk. Et maintenant, c'est les festivals de micro-édition, c'est plus du tout ça. C'est un peu comme dans tous les milieux. Si on fait pas des trucs pour nous, il y a personne qui va le faire. Et c'est plutôt difficile. Le milieu du fanzine est très masculin, très hétérosexuel et très blanc. Et du coup, si on crée pas d'autres choses, ça restera ça, quoi. Faites des fanzines, faut pas trop se mettre la pression. Et puis, tout le monde a des trucs chouettes à raconter. Et puis, si on laisse. Je pense qu'on se prend beaucoup la tête sur est-ce que c'est assez bien diffusé les choses. C'est dur, ça expose à la critique, à plein de choses. Mais ça sera toujours mieux que toute la culture de masse mainstream capitaliste dégueulasse qu'on se mange dans la gueule tous les jours. Donc, faites des fanzines.
Du coup, on retrouve tout sur
Eosine. Du
tous
coup,
ces fanzines, c'est sur Eosine, ils y sont tous.
Ouais, bah, tous, non, ils y sont pas tous, mais ceux que j'assume, ils y sont. Et du coup, Eosine, c'est hehozine.wordpress.com.
Alors, aujourd'hui, on est avec Marguerin dans le studio. Merci d'être là déjà.
Merci de m'inviter.
Alors, on va parler un peu de ce que font les éditions douteuses. Du coup, est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer un peu ce que sont les éditions douteuses?
Ouais, les éditions douteuses, c'est Elodie et moi. Du coup, c'est Elodie qui m'a embarqué dans cette galère. Elodie qui fait de la poésie, qui s'auto-éditait, qui publiait des fanzines, et elle savait que j'écrivais, on est très amis tous les deux, et puis elle m'a en fait invité à en faire moi aussi, et vu que c'est des petites publications assez faciles à réaliser, je me suis un peu pris au jeu. J'écrivais un peu sur internet, j'écrivais un peu dans des carnets, mais j'avais jamais vraiment publié, et je pensais pas que ça valait vraiment le coup, et en fait j'ai commencé vraiment à aimer ça et à prendre du plaisir à faire à trouver des papiers, à l'imprimer, à le fabriquer, etc. Du coup, on s'est mis ensemble sous cette entité des éditions douteuses, et du coup on publie sous ce nom. Donc voilà, C'est de la poésie, c'est des textes critiques sur le genre, sur la sexualité, sur la culture populaire aussi. Voilà.
Et c'est ce que vous imprimez, ce que vous publiez, vous le diffusez auprès de qui vous avez, enfin, en particulier par exemple?
Alors, on le diffuse quand on est invité à faire donc ce qu'on appelle des distros. Ça peut être pendant un concert, ça peut être pendant un salon de micro-édition, comme ce dont on a entendu parler dans l'extrait juste avant là. Parce qu'il y a de plus en plus d'événements comme ça qui se montent dans des petites villes, des petits salons comme ça, avec du gravzine ou alors des trucs. Nous, on est un peu marginaux dans ce milieu-là parce qu'on fait surtout du texte. Et là, la scène fanzine en France, c'est très dessin, BD, etc. On a fait ça au festival Lod & Prod, parce qu'il y avait un queerzine fer. Je sais pas si on appelle ça comme ça, je sais plus. Et à la Queer Week également. Enfin voilà, quand ça marche le plus et que le public est le plus réceptif, c'est dans les événements communautaires, on va dire. Voilà, ce qu'on fait, c'est très queer.
Mais du coup, c'est vous qui vous occupez de la diffusion, enfin de distribuer tout ça.
Ouais.
Et vous avez l'impression qu'ils circulent bien vos textes. Enfin, je veux dire, on entendait un peu parler dans l'entretien avec Rizzo de toute cette culture copyleft un peu. Est-ce que vous essayez de garder ça en tant que les éditions douteuses je suppose un peu un pied de nez aussi
Ouais. moi j'ai commencé à faire gaffe aux licences il n'y a pas longtemps, donc que faire en sorte que le texte il soit reproductible, enfin comment dire, qu'on puisse le photocopier, le redistribuer sans se préoccuper ensuite des droits d'auteur, etc., pour que ça soit copyleft et que le texte puisse circuler. On les met pas tous sous licence. Il y en a qui sont protégés. Du coup, ça nous appartient ensuite de les adapter ou pas, ou de faire des lectures, parce qu'on fait aussi beaucoup de lectures quand on circule. Un lieu aussi où on peut diffuser pas mal, c'est ça peut être les galeries, des vernissages, parce que avec Elodie, on s'est rencontrés aux Beaux-Arts, alors du coup on a un petit pied dans tout ce qui est tout le milieu un peu art contemporain, etc. Donc c'est aussi un endroit où on peut diffuser. Voilà, mais ouais, on essaie de faire en sorte que les textes ils puissent se laisser réapproprier librement, que ce soit par des artistes sonores par exemple, vu que tout à l'heure vous allez passer des petits extraits audio. Donc voilà, on a des gens qui vont pouvoir se réapproprier le texte.
Oui, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu dis que ça part un peu de cette espèce de culture de fabriquer son imprimé soi-même, et j'ai l'impression que plus ça va, plus ça se diffuse vers d'autres formes.
Ouais.
Je sais pas si vous travaillez sur des formes plus informatiques ou juste des enregistrements, c'est déjà, comme ça part déjà sur plusieurs supports différents, j'ai l'impression.
Ouais, on est très geek aussi, et du coup, c'est vrai que tout ce qui est numérique, ça nous branche pas mal. Faire des formes interactives, Elodie voulait faire des livres dont on est le héros à une époque, enfin bref, ce genre de truc, donc c'est vrai qu'on essaie
de... Ouais. Ça doit pas être facile à écrire.
Ouais, c'est clair. On fait des gifs, on fait... Ouais. Pour l'instant, c'est très papier, parce qu'on est des gros fétichistes du papier. Du coup, on aime bien récupérer des matériaux qu'on aime bien, etc. Mais ouais, pour l'instant, c'est très physique, quoi. Surtout dans la distribution, on n'en vend que, on va dire, en tête-à-tête, quoi. On aime bien se déplacer aussi.
Et c'est vous qui les fabriquez de A à Z?
Ouais.
Avec notre papier.
Ouais, c'est ça, nos petites imprimantes Canon et puis le petit massico, etc. Ouais.
Alors, en parlant de fétichisme, c'est quoi le lien que vous faites entre texte érotique ou porno trash avec de la critique sociale et sexuelle, du coup?
Je crois que c'est un peu raconter des choses qui font flipper, ou quand on qu'on n'entend pas trop, ou des formes de sexualité qui sont pas dites, ou qui sont cachées, ou dans les recoins, ou qui se passent la nuit, ou dans la forêt, ou dans la rue. Et du coup, c'est bien de les faire sortir comme ça, et surtout quand on fait des lectures, c'est assez c'est des moments assez forts, parce que du coup on se met à raconter des choses atroces, des choses vraiment qui sont importantes, je pense qu'il faut qu'ils soient dites, quoi, sur le sexe entre mecs ou entre filles, et voilà la réalité de tout ça. Et voilà, c'est ça le côté critique, c'est cette espèce d'irruption comme ça de la sexualité cachée en fait dans la voix ou dans le texte.
Alors, du coup, on va écouter un petit extrait d'un de tes textes, du coup, qui s'appelle Tout corps prend feu, qui a été adapté, mis en son par Daniel Martin-Boret, et qu'on vous mettra en lien sur le site, qui fait partie d'une série d'enregistrements pour Super Sexouille.
Eh bien, on va jouer pour tous ceux. Donc, il y a une dame déjà, elle se réjouit, elle se dit moi, je le veux, hein, c'est bien ça.
Pardon.
Est-ce que vous avez des souvenirs de quand vous étiez à la maternelle?
Je t'ai pas raconté la fois où on s'est sucé la bite avec un mec qui harcelait des meufs devant le hit bar. On voyait qu'il était pas méchant, mais sans doute un peu con, et le rhum rendait les meufs pédagogues. Le mec n'était pas méchant, et elles lui ont expliqué pourquoi fallait pas emmerder les meufs dans la rue. C'était la nuit. En temps normal, le mec se serait fait fumer la gueule dans les règles, puis aurait disparu. Quelque chose de plus fort que nous tassait l'ambiance, nous rendait simple. Pas envie de se prendre la tête. Après s'être fait remonter les bretelles comme un petit garçon, le mec a arrêté son cirque comme s'il savait qu'il faisait quelque chose de mal, mais qu'il n'avait pas le choix, car c'est comme ça que sont les garçons, comme ça qu'ils doivent être.
Je me suis assis sur le muret à côté du lit, car j'étais attiré par le lycra blanc de son jogging, la casquette, la marque et le shit qu'il vendait. On discute, je hausse les épaules, je souris et je suis tout proche. Je me dis qu'on a tous les deux des couilles, une bite, une bouche, qu'il serait dommage de ne pas connecter tout ça pour voir ce que ça fait, un peu comme une expérience, générer un moment, faire que tout pète. À cet instant, je vois sa queue bien tendue et plaquée sous le plastique du survêtement. Je décide d'y aller. Je réfléchis pas plus longtemps et je lui mets la main au paquet. Je prends son gland entre mes doigts et je presse tout doucement. Il y a un silence très bref avant qu'il ne dise « Pourquoi pas ?» et il répète « Franchement, pourquoi pas ?» Puis, ça me dérangerait pas. Je lui dis « Cool alors, on va trouver une petite rue tranquille. » J'ai soif de ses couilles et ma queue engourdie par le rhum brun durci, comme si je m'apprêtais à sauter en parachute. Je cours presque parce qu'il me tarde d'avoir sa bonne queue au fond de la gorge. Je trouve une traboule déserte. On se colle contre un mur à pisse entre une poubelle, du merdier, une sorte de service, un tuyau. On se met là en face de l'autre et il n'y a plus que deux garçons. Je veux d'abord toucher son ventre, mou et gros, la peau de son ventre, douce comme un cul. Je passe le dos de ma main sur les poils fins, noirs, de son nombril, on se roule une pelle. C'est très spontané.
Ah, il s'en passe des trucs au hit-bar.
Alors du coup, c'est un peu frustrant, donc du coup vous irez sans doute écouter la suite sur le lien qu'on vous mettra. Donc moi j'avais envie de parler, de renouer un peu avec ce côté fan dont Rizzo parlait un peu dans l'entretien de tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui parlent de cinéma,
ouais,
d'horreur et de cinéma fantastique dans toi, ce que t'écris dans les éditions douteuses. C'est un sujet dont t'as toujours eu envie de parler comme ça, je veux dire.
Ouais, je suis ultra cinéphile et c'est vrai que ouais, le fanzine, ouais, c'est un moyen d'expression pour les fans et pour parler de culture populaire, etc. Et du coup, moi j'aime bien parler du cinéma sous l'angle des stars. Du coup, des actrices, etc. Du coup, il y a un zine que j'ai fait sur Sigourney Weaver, par exemple. Donc ça permet d'aborder des thèmes un peu comment dire bas, un peu vulgos ou un peu tout ce qui est mauvais goût, etc. Et aborder le cinéma sous cet angle-là, c'est voilà, c'est typiquement ce qu'on peut faire avec un zine. Donc ouais, ultra cinéphile et versant SF. Ouais.
Alors du coup moi, pour rebondir ce que tu disais, j'ai un peu re-regarder ce qu'il y avait dans le zine qui s'appelle Le mauvais goût des femmes et des homosexuels. Et du coup, t'écris au début, c'est une invitation à prendre les divertissements très au sérieux. Elle s'adresse à toutes celles et ceux pour qui la culture est une question de survie et l'art un enjeu politique, à ceux qui dansent par activisme, à celles qui sortent en boîte pour se sentir plus fortes, aux fans de Showgirls et de Sandra Bullock, aux cinéphiles des Jeudis de l'angoisse et de la trilogie du samedi. C'est un appel à cultiver son mauvais goût à dose radioactive, à se méfier des hiérarchies esthétiques. On parlera d'œuvres américaines, sur un ton vulgaire et académique, on manipulera des objets impurs, télévisuels et pop. Alors, du coup, c'est quoi cette notion de mauvais goût pour toi, ça correspond à quoi, si tu pouvais le décrire?
En fait, dans le fanzine, il y a un lien entre mauvais goût cinématographique et mauvais goût sexuel. Du coup, j'essaie de faire un parallèle entre le fait d'aimer la bite quand on est un garçon et d'aimer les mauvais films quand on est cinéphile. Donc, quand on va sur Internet, t'as des plateformes comme Sens Critique où je traîne pas mal, par exemple. Donc, c'est des petits réseaux sociaux où tu peux faire des tops de tes films préférés, etc. C'est très, très hétéro, supra-culture, un peu boys club avec, voilà, film hollywoodien, on va dire Christopher Nolan, etc. Et du coup, t'as pas trop de place pour tout ce qui est les cultures un peu plus, pas forcément alternatives, mais en fait, typiquement, on va dire, c'est quoi ton film préféré, ton film de science-fiction préféré? Dans les tops, tu vas plutôt lire 2001 l'Odyssée de l'espace ou Blade Runner, etc. Et moi, mon film de science-fiction préféré, par exemple, c'est Contact avec Jodie Foster. Et du coup, et on le voit pas trop apparaître. Du coup, j'essaie de réfléchir un peu tout ça. Qu'est-ce que ça change d'être PD, de ton rapport aux œuvres mainstream, et comment tu, en fait, comment la réception des œuvres, elle peut être différente. Donc ça, c'est un truc en France qui, en tout cas à la fac, parce que j'ai fait la fac de ciné, et tout ce qui est réception, c'est-à-dire aborder les œuvres, mais du côté du public, ça se fait pas beaucoup. Et je trouve que c'est intéressant pourtant de savoir pourquoi les gens ils aiment ça et pourquoi ils aiment pas ça. Et en fait, c'est une question qu'on se pose aussi dans la sexualité. Souvent, nous, voilà, pourquoi j'aime les mecs? Pourquoi c'est un peu faire un parallèle entre ça, le mauvais goût sur les deux plans, quoi.
Par rapport à ça, il y a tout ce que tu développes aussi sur la notion de camp, sur ce que tu transcris en termes de notes et d'éléments manipulables pour lire justement ces films, notamment de science-fiction, autour de cette notion de mauvais goût. Il y a aussi tout ce truc autour de l'excès, je trouve, qui est très présent dans ce que t'écris.
Ouais.
Je sais pas si tu veux en parler un peu.
Ouais, ça fait un bail que j'ai pas écrit sur le camp, mais ouais, l'excès. Il y a un moment dans le zine où je parle le rapport à ma mère et à mon père. Du coup, le père plutôt un rapport aux œuvres et à la culture, plutôt dans l'introspection, pas dans l'introspection, mais ultra intellectualisé. Papa il écoute plutôt du jazz et il est dans son bureau, et maman elle est plutôt dans les la comédie, et du coup peut-être les humoristes aussi féminines, Sylvie Joly ou des trucs comme ça. Et du coup le camp, je pense qu'on y vient un peu par ce biais là de l'humour féminin. Il y a tout un débat en ce moment sur Internet sur les drag queens femmes et cisgenres, et du coup est-ce qu'elles ont droit aussi de faire du drag, enfin de se queener quoi, et pourquoi elles auraient pas le droit en fait, c'est ridicule, mais il y a des mecs gays pour qui c'est de la réappropriation culturelle, enfin bref, c'est un débat absolument atroce, mais c'était pour dire que justement le camp ça vient aussi, c'est un humour aussi qui a été fait et construit et enrichi par des femmes, et des femmes humoristes, des femmes actrices, performeuses, etc. Voilà, donc je pense que c'est des questions très politiques aussi, tout ce qui est celle de l'humour, du jeu, de l'excès, etc.
J'ai bien répondu.
Oui. Merci. Du coup, j'ai l'impression que ce que tu fais aussi autour de ces questions de cinéma, je parle beaucoup de cinéma parce que moi c'est un truc qui me touche beaucoup dans
ce moi aussi.
Cette question de l'excès, j'ai l'impression qu'en fait dans la lecture qu'on a des grands films de science-fiction, par exemple, je pense à Alien, et c'est vrai que les hétéros, quand ils lisent ça, j'ai l'impression qu'ils gomment toute la dimension sexuelle hyper trash qu'il y a dedans. Je veux dire, c'est dommage, mais c'est plus que ça, quoi. Du coup, est-ce que toi, t'as l'impression de développer une lecture vraiment, enfin, à travers le développement d'une lecture PD de ces trucs-là, tu peux dégager des. Pas du sens, mais on s'en fout qu'il n'y a pas du sens.
Ouais, carrément. En fait, c'est pas tant. Là, pour le coup, c'est pas forcément développer une lecture d'Alien qui serait queer ou camp, mais en fait, dire que le film, il est déjà dans la façon dont il a été réfléchi, etc. Surtout Alien 3, qui, et avec le 4, les deux derniers sont vraiment les plus gays. Qui soient, parce que du coup, t'as cette Sigourney Weaver qui est tondue. Comme un skinhead des années 90 quoi, avec qui est dans une prison de mecs, enfin bref, il y a tout un comme ça un imaginaire qui est ultra pédé, etc. Et le 4 qui est le moins apprécié des fans en général, qui pourtant est génialissime, où t'as ce duo Sigourney Weaver Winona Ryder qui est fantastique quoi, et le film est très ultra iconoclaste, etc. Du coup c'est en fait, c'est les films sont déjà, ils ont pas besoin d'une lecture particulière. C'est juste que voilà, ils existent comme ça déjà avec leur force complètement chelou et complètement bizarre. Et je trouve que Alien Covenant est un peu pédé aussi sur les bords. Je sais pas si tu l'as vu.
Oui, je l'ai vu, mais ça m'intéresse de savoir pourquoi c'est PD, Alien Covenant.
En fait, ils ont casé un couple de colons de l'espace PD, je sais pas si tu vois. Oui. Et en fait, t'as rien dans le film qui montrerait qu'ils sont ensemble ou des petits indices comme ça. Enfin, c'est vraiment calé des gays pour faire de la représentation, quoi. Et en fait, et en plus, c'est des colons de l'espace. Enfin, bref, c'est vraiment le couple gay. Qui est là avec une image qui est là pour rassurer les hétéros, en fait. C'est vraiment le couple PD qui ressemble à des hétéros, en fait, tout simplement. Mmh. Et en face, t'as Michael Fassbender qui joue un androïde savant fou, ultra gothique, qui est reclus dans son château et qui fabrique des aliens, parce qu'en fait, c'est ça le spoiler du film, c'est qu'en fait, les aliens, ils sont créés par des androïdes. Et voilà, vous êtes spoilés à mort. Et du coup, Michael Fassbender, c'est une représentation vachement plus queer et un peu perverse de gay au cinéma. Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là dans le dernier, je trouve, qui sont intéressantes.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, ces trucs d'android et tout, ça me permet de rebondir. Moi, ce qui se construit autour des éditions douteuses, j'ai l'impression. Enfin, moi, ça me fait vachement penser à ce qu'écrit Donna Haraway sur les cultures cyborg, sur les récits composites. Est-ce que t'as l'impression que c'est un peu du piratage, du détournement de sens, du hacking, en gros, ce que vous faites avec les éditions douteuses?
Ouais, je suis un gros fan de Donna Haraway. C'est un des premiers trucs que j'ai lu dans le style avec Monique Wittig, etc. Et ouais, la figure de l'alien, elle est très, elle est aussi un peu là-dedans, ouais, entre le mécanique et l'organique, entre Alors, est-ce que nous, dans ce qu'on fait, ça pourrait ça pas... Je sais pas si on fait du hacking, parce que le hacking, ça dépend aussi des espaces où tu vas, des espaces que tu vas hacker. Et en fait, je suis pas sûr qu'on est trop dans cette démarche, mais bon, c'est une grosse influence de Nara, ouais, c'est sûr.
Merci.
Alors, je t'en prie.
Du coup, on va écouter une autre lecture, un autre texte, le deuxième texte qui est celui d'Elodie.
Ouais. Donc c'est lu et réalisé par Elisa, qui est la créatrice de Super Sex Week, plateforme pornophonique de textes érotiques. Voilà.
Ce n'est pas tant le goût de sa pine que comment elle grossit. Personne ne peut se douter de ce que cache une braguette. La sienne. Dessous le jean, une belle queue bandante qu'on voudrait branler sans ne jamais s'arrêter. La voir au bout de la langue. Sur les lèvres. Adorer encore et plus. Ne plus pouvoir dormir. La vouloir toujours en. Sa langue, ma chatte dompte ses doigts dedans. Elle joue parfaitement avec mon sexe de femme, comme seule une autre femme saurait le faire. La langue glisse, ouvre, aime puissamment. Mon sexe mouille son index sur mon anus. Plus rien du temps qu'il fait à l'extérieur. La lumière crue sur sa peau, sur ses couilles le matin. Le soleil entre dans son cou par la fenêtre. Je vois d'abord la couleur foncée de ses cheveux et encore sa bouche brune, similaire à de la viande crue, le sang derrière. Dans le coin de son œil, les résidus de sommeil, le long nez, les poils noirs, les cheveux blancs parsemés parfaitement. Beau. Une tache blanche de salive sèche sur sa bouche, je passe dessus, ma langue mouillée. Peau des couilles épaisses et serrées sous sa bite tendue. Le chat se transforme. Et je tousse. Ma peau rose fluo, ses mains, la bite tropisme vers la lumière. Un chat chasse la poussière. Texte d'Élodie Petit, mise en son pour Super Sex Week.
Vous êtes dans On n'est pas des cadeaux sur Radio Canu. On est avec Marguerin. Alors, on va, après le texte qu'on vient d'entendre, on va écouter un peu de musique, puisqu'on parlait il y a 5-10 minutes d'androïdes, de robots et drag queen. On va écouter Fever Ray avec un morceau qui s'appelle To the Moon and Back, qui est un clip absolument délirant, dans lequel vous retrouverez des androïdes, de l'espace et du maquillage de drag queen.
toujours à On n'est pas des cadeaux et on parle de zine et des éditions douteuses. Margaret, j'ai une question. Vous avez parlé de cinéma, mais je veux qu'on en revienne aux zines. C'est quoi la différence entre publier sur le net et publier sur le papier? Parce que ça m'a amusé tout à l'heure de t'entendre dire oui, j'avais déjà écrit un peu sur le net, mais j'avais pas publié. Alors que pour moi, c'est déjà publié. Mais pourquoi ce goût du papier? Quel est l'intérêt pour vous?
Il y a le plaisir de fabriquer un objet. Après, pour la diffusion, c'est vrai que tu peux après le retrouver chez les gens, tu vois, tu le retrouves dans les toilettes, tu le retrouves sur la table basse du salon. Enfin, il y a un petit côté, c'est précieux et ça donne vachement de valeur au texte, je trouve. Et puis, ça le sublime, en fait, je trouve vraiment le papier, l'objet, la couverture. Enfin, réfléchir à tout ça, c'est assez chouette et j'aime bien le côté le mettre dans la poche des gens et qui ensuite que tu le revois après, enfin je trouve ça assez cool.
Et enfin moi ça m'amuse de me dire que les fanzines en fait c'est une des propositions pour créer de l'espace pour des trucs qui n'en ont pas ailleurs et où du coup il y a bien cet espace physique effectivement, enfin c'est un objet et c'est un lieu quoi, enfin et puis il transite, il voyage et je trouve ça super intéressant.
Ouais, carrément. Et puis, tu disais c'est un lieu, mais c'est vrai qu'il y a aussi à réfléchir à toute la maquette, etc. Et quand tu crées le livre, tu penses à... C'est comme si tu créais tout un petit univers avec... vraiment réfléchir à tout ce travail de la maquette, c'est hyper... c'est une forme d'art à part entière, en fait. Enfin, c'est vraiment un moyen d'expression... poétique, quoi.
Et c'est quoi vos projets futurs avec les éditions douteuses alors?
Projets futurs, on va aller à Caen. Et oui, ouais, on aime bien. Mais on adore aller dans d'autres villes voir comment ça se passe dans d'autres collectifs ou voilà pour je sais pas pour rencontrer les militantes et tout. Enfin, je trouve ça. C'est important. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On republie régulièrement, parce que vu qu'on a des modes d'écriture ultra rapides et avec des petits formats, etc., un texte il peut être torché en une semaine et puis ensuite on le rediffuse. Du coup, on a tout le temps des nouvelles publications. Là, je crois qu'on n'a pas trop d'actualité directement.
Parce qu'il y a combien de publications et c'est comme édité à combien d'exemplaires?
Je pense qu'on a écrit peut-être 10 ou 12 fanzines chacun avec Elodie. Et en fait, on les réimprime au fur et à mesure quand on fait des distros, quoi. Du coup, je pourrais pas vraiment dire combien il y en a. Et d'ailleurs, j'en fais une samedi soir au Rita Plage. Il y a un concert, il y a un super concert.
Demain soir,
ouais, c'est ça.
C'est le début de l'agenda. J'en revenais encore une fois sur le papier et sur l'objet papier. Est-ce que cet objet papier, et puis votre manière de diffuser, c'est pas aussi une manière de créer des rencontres?
Ouais, complètement. C'est clair que quand tu fais quand tu participes à une distro et que t'as les gens en face de toi et que tu discutes avec eux, c'est pas comme s'ils les téléchargeaient sur Internet. Bien que du coup, on peut aussi trouver nos textes sur nos sites web, mais du coup, ouais, c'est clair que l'objet physique, il va créer un rapport avec le lecteur ou la lectrice, et du coup, c'est un petit moment partagé comme ça. Enfin, ouais, c'est chouette. Puis après, les gens lui disent ah, j'ai lu ce que j'ai trop aimé. Enfin, je sais pas, c'est chouette. Ça crée un lectorat en fait, tout simplement.
Bah, merci beaucoup.
Bah, merci à vous. C'était trop chouette.
Alors, du coup, on était parti sur l'agenda. Moi, ce que je vous propose cette semaine, c'est une contre-date, une antidate, un contre-agenda, puisque l'Odyssée, la semaine du 17 novembre, c'est l'anniversaire de la Manif pour tous, qui cette semaine a eu 5 ans. Donc,
ah oui, quand même.
Ah oui, ça fait un moment quand même.
Vite, voilà. Hein.
5 ans de joie.
Voilà. Et de propositions politiques fortes. Donc, je te propose donc une antidate à noter puis à barrer immédiatement dans ton agenda.
Juste pour le plaisir.
Juste pour le plaisir.
Quelle bonne idée.
Le 20 novembre, ça va aussi être la journée du souvenir trans.
Et alors, Chrysalide à Lyon organise une projection du film L'Ordre des mots au centre LGBT. Et je crois que c'est le 18 novembre la projection. Et ce soir, comme tu parlais du Rita Plage, il y a un muffin stage. Donc c'est des meufs sur la scène et des gouines. Et du coup, c'est une soirée slam et qui va avoir lieu avec différentes artistes qui vont monter sur scène. Et il va y avoir aussi Flo Mekouyanski qui va jouer. Donc c'est à partir, je sais jamais, à 20h. On a qu'à dire 20h au Rita Plage ce soir. Et demain soir, concert au Rita Plage aussi.
Avec un distro des éditions douteuses.
Voilà.
Ben, merci beaucoup, Marguerin. On va finir cette émission en écoutant un autre morceau, qui est une reprise de Maman à tort de Mylène Farmer par le groupe Tôle Froide.
Et ben, à dans deux semaines. Et vous retrouvez Lilith Martin et les autres la semaine prochaine. Ciao.
Salut.
Pleure 4, je l'aime 5, il est non droit 6, de tout toucher 7.